Butifère, dit en continuant Benassi, ta conscience doit te faire des reproches. Si tu recommences ton ancien métier, tu te trouveras encore une fois dans un parc enclos de murs. Aucune protection ne pourrait alors te sauver des galères. Tu serais marqué, flétri. Tu m'apporteras ce soir même ton fusil. Je te le garderai. Butifère pressa le canon de son arme par un mouvement convulsif. Vous avez raison, monsieur le maire, dit-il. J'ai tort. J'ai rompu mon ban. Je suis un chien. Mon fusil doit aller chez vous. Mais vous aurez mon héritage en me le prenant. Le dernier coup que tirera l'enfant de ma mère atteindra ma cervelle. Que voulez-vous? J'ai fait ce que vous avez voulu. Je me suis tenu tranquille pendant l'hiver. Mais au printemps, la sève a parti. Je ne sais point labourer. Je n'ai pas le cœur de passer ma vie à engraisser des volailles. Je ne puis ni me courber pour biner des légumes, ni fouailler l'air en conduisant une charrette, ni rester à frotter le dos d'un cheval dans une écurie. Il faut donc crever de faim? Je ne vis bien que là-haut, dit-il après une pause en montrant les montagnes. J'y suis depuis 8 jours. J'avais vu un chamois, et le chamois est là, dit-il en montrant le haut de la roche. Il est à votre service. Mon bon monsieur Benassi, laissez-moi mon fusil. Écoutez, foi de butifère, je quitterai la commune et j'irai dans les Alpes, où les chasseurs de chamois ne me diront rien. Bien au contraire, ils me recevront avec plaisir et j'y crèverai au fond de quelque glacier. Tenez, à parler franchement, j'aime mieux passer 1 an ou 2 à vivre ainsi dans les hauts, sans rencontrer ni gouvernement, ni douanier, ni garde champêtre, ni procureur du roi, que de croupir 100 ans dans votre marécage. Il n'y a que vous que je regretterai. Les autres me scient le dos. Quand vous avez raison, au moins vous n'exterminez pas les gens. Et Louise? Lui dit Benassi. Butifère resta pensif. Eh, mon garçon, dit Genesta, apprends à lire, à écrire, viens à mon régiment, monte sur un cheval, fais-toi carabinier. Si une fois le bout de selle sonne pour une guerre un peu propre, tu verras que le bon Dieu t'a fait pour vivre au milieu des canons, des balles, des batailles, et tu deviendras général. Oui, si Napoléon était revenu, répondit Butifère. Tu connais nos conventions, lui dit le médecin. À la seconde contravention, tu m'as promis de te faire soldat. Je te donne 6 mois pour apprendre à lire et à écrire. Puis je te trouverai quelques fils de famille à remplacer. Butifère regarda les montagnes. Oh, tu n'iras pas dans les Alpes, s'écria Benassi. Un homme comme toi, un homme d'honneur, plein de grandes qualités, doit servir son pays, commander une brigade, et non mourir à la queue d'un chamois. La vie que tu mènes te conduira droit au bagne. Tes travaux excessifs t'obligent à de longs repos. À la longue, tu contracterais les habitudes d'une vie oisive qui détruirait en toi toute idée d'ordre, qui t'accoutumerait à abuser de ta force, à te faire justice toi-même, et je veux, malgré toi, te mettre dans le bon chemin. Il me faudra donc crever de langueur et de chagrin? J'étouffe quand je suis dans une ville. Je ne peux pas durer plus d'une journée à Grenoble quand j'y mène Louise. Nous avons tous des penchants qu'il faut savoir ou combattre ou rendre utiles à nos semblables. Mais il est tard. Je suis pressé. Tu viendras me voir demain en m'apportant ton fusil. Nous causerons de tout cela, mon enfant. Adieu. Vends ton chamois à Grenoble. Les deux cavaliers s'en allèrent. Voilà ce que j'appelle un homme, dit Genesta. Un homme en mauvais chemin, répondit Benassi. Mais que faire? Vous l'avez entendu. N'est-il pas déplorable de voir se perdre de si belles qualités? Que l'ennemi envahisse la France, Butifère, à la tête de 100 jeunes gens, arrêterait, dans la Maurienne, une division pendant 1 mois. Mais en temps de paix, il ne peut déployer son énergie que dans des situations où les lois sont bravées. Il lui faut une force quelconque à vaincre. Quand il ne risque pas sa vie, il lutte avec la société. Il aide les contrebandiers. Ce gaillard-là passe le Rhône, seul sur une petite barque, pour porter des souliers en Savoie. Il se sauve, tout chargé, sur un pic inaccessible, où il peut rester 2 jours en vivant avec des croûtes de pain. Enfin, il aime le danger comme un autre aime le sommeil. À force de goûter le plaisir que donnent des sensations extrêmes, il s'est mis en dehors de la vie ordinaire. Moi, je ne veux pas qu'en suivant la pente insensible d'une voie mauvaise, un pareil homme devienne un brigand et meure sur un échafaud. Mais voyez, capitaine, comment se présente notre bourg. Genesta aperçut de loin une grande place circulaire plantée d'arbres, au milieu de laquelle était une fontaine entourée de peupliers. L'enceinte en était marquée par des talus sur lesquels s'élevaient 3 rangées d'arbres différents. D'abord des acacias, puis des vernis du Japon et, sur le haut du couronnement, de petits ormes. « Voilà le champ où se tient notre foire !» dit Benassi. Puis, la grande rue commence par les 2 belles maisons dont je vous ai parlé, celle du juge de paix et celle du notaire. Ils entrèrent alors dans une large rue assez soigneusement pavée en gros cailloux, de chaque côté de laquelle se trouvait une 100aine de maisons neuves, presque toutes séparées par des jardins. L'église, dont le portail formait une jolie perspective, terminait cette rue, à moitié de laquelle 2 autres étaient nouvellement tracées et où s'élevaient déjà plusieurs maisons. La mairie, située sur la place de l'église, faisait face au presbytère. À mesure que Benassi avançait, les femmes, les enfants et les hommes, dont la journée était finie, arrivaient aussitôt sur leurs portes. Les uns lui ôtaient leur bonnet, les autres lui disaient bonjour. Les petits-enfants criaient en sautant autour de son cheval, comme si la bonté de l'animal leur fût connue autant que celle du maître. C'était une sourde allégresse qui, semblable à tous les sentiments profonds, avait sa pudeur particulière et son attraction communicative. En voyant cet accueil fait au médecin, Genesta pensa que, la veille, il avait été trop modeste dans la manière dont il lui avait peint l'affection que lui portaient les habitants du canton. C'était bien là la plus douce des royautés, celle dont les titres sont écrits dans les cœurs des sujets. Royauté vraie, d'ailleurs. Quelque puissants que soient les rayonnements de la gloire ou du pouvoir dont jouit un homme, son âme a bientôt fait justice des sentiments que lui procure toute action extérieure, et il s'aperçoit promptement de son néant réel, en ne trouvant rien de changé, rien de nouveau, rien de plus grand dans l'exercice de ses facultés physiques. Les rois, eussent-ils la terre à eux, sont condamnés, comme les autres hommes, à vivre dans un petit cercle dont ils subissent les lois, et leur bonheur dépend des impressions personnelles qu'ils y éprouvent. Or, Benassi ne rencontrait partout dans le canton qu'obéissance et amitié.